sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts, dans son numéro de l'été 2011, braque son projecteur sur l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts et sur l'actualité des académiciens, compositeurs, sculpteurs, photographes. Parmi eux, Pierre Cardin, artiste et mécène de l'art contemporain, membre de l'Institut depuis 1992, nous reçoit au château de Lacoste, dans le Luberon, un lieu d'histoire qui n'est rien moins que l'ancien château du Marquis de Sade, qu'il a entièrement restauré, avec une grande partie du village perché médiéval attenant. Les expositions et le festival organisé par Pierre Cardin ont donc pour écrin le château de Lacoste, où la pierre blanche extraite des carrières locales contraste avec les œuvres les plus contemporaines. Le couturier, fasciné dans les années 60 par la conquête de l'espace et toujours tourné vers l'avenir, a voulu rendre un hommage aux pionniers de l'art cinétique, un art de l'expérience, du mouvement et des couleurs, cette année dans une exposition présentée à Lacoste qui s'appelle « Sculpture en mouvement ». Retrouvons Pierre Cardin pour nous parler de tous ces sujets. Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir au château de Lacoste, où Canal Académie a pu assister hier au vernissage de l'exposition « Sculpture en mouvement », une exposition avec 5 magnifiques sculptures tout à fait contemporaines, des plus grands noms, Soto, Schoeffer, Ikili, Cruz Diez, sont ici représentés, et également le sculpteur Agam. Comment vous est venue cette envie d'exposer des œuvres de l'art cinétique, un art avec lequel vous avez probablement été en accord, vu vos créations dans la mode, dans les années 60 et 50?
C'est-à-dire qu'arrivant de Vichy après la guerre, tout de suite j'ai participé à des mouvements culturels, et la première exposition qui m'a vraiment fasciné, qui était tout à fait révolutionnaire et nouvelle, c'est la sculpture en mouvement. Donc les noms que vous venez de prononcer, je les ai vus il y a en 1948, 47, 49, 50, où il y a eu une très très grande exposition internationale de tout l'art cinétique. Et c'était le départ du mécanisme, en réalité, du mouvement. C'est un mouvement qui m'a séduit par la diversité et la nouveauté, et j'étais très fan. Et depuis 50 ans maintenant, on a un petit peu pas oublié, mais on en a moins parlé, plus exactement du cinétisme. Et c'est pour ça que l'an dernier, j'ai pu faire, avec la collaboration de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts, une exposition superbe avec que des sculpteurs à ce moment-là. Cette année, j'ai voulu faire une différence avec des sculpteurs qui ne sont pas des académiciens, de quoi que certains l'ont été, de mettre en actualité, en tout cas autant que possible, à ma dimension, l'art cinétique avec ces grands noms que vous venez de citer.
Oui, alors vous venez d'évoquer en fait le sculpteur Nicolas Schoeffer.
Oui, qui était à l'époque, c'était un sculpteur dont on appréciait énormément, mais qui était discuté également parce que c'est un nouveau mouvement de sculpture, c'est une nouvelle conception, une technique. La mécanique rentrait dans le jeu, et l'électricité, la lumière, tout ce qui était projection, rentrer dans son jeu. Et d'ailleurs, quand je vois actuellement le pas de géant que ce mouvement a créé, ne serait-ce que par exemple j'arrive du Maya du Prince de Monte Carlo, et quand je vois ce merveilleux spectacle dû à travers d'ailleurs qui aurait pu être signé Nicolas Schoeffer, car c'est tellement une telle dimension différente par rapport au temps, 50 ans ont passé quand même, mais la proportion de la technologie aujourd'hui et de la musicalité et de la lumière et du scénique et du virtuel, c'est exactement ce que Nicolas Schoeffer à l'époque avait imaginé. C'était un concert avec des tours de Nicolas Schoeffer en réalité, qui avait 30 et 40 mètres de haut, il y en avait 8 tout de même, avec des jeux scéniques, des jeux de lumière, des jeux de projection et de l'architecture en soi-même, dans ce port de Monte Carlo. C'était féerique, et avec un feu d'artifice de plus beau que je n'ai jamais vu par-dessus en plus, ça revenait en plus. C'est-à-dire qu'on était dans un monde complètement différent et fascinant.
Cette complémentarité des arts vous a toujours séduit? Le fait que ce soit visuel, sonore?
Oui, moi j'ai toujours été, enfin j'aurais voulu être un artiste, c'est le cas de dire, quand j'avais 16 ans, je voulais être acteur ou danseur. Il est évident que pendant la guerre, moi j'ai connu la guerre, donc c'était différent, je ne pouvais pas décider à l'époque parce qu'il y avait les occupations des Allemands à Vichy. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de rêver. Et lorsque je suis arrivé à Paris, bien sûr, mon jeu était de voir les expositions pour avoir une certaine culture, parce que pendant la guerre, tout était close, tout était fermé. Il y avait la faim et le froid en réalité, les Allemands présents en plus. qui n'est pas tout à fait évident pour un jeune homme de 18 ans ou 17 ans, ce n'était pas tout à fait l'évidence d'une vie. Mais en tout cas, je m'en suis très bien sorti, et dès que j'ai pu être libre en arrivant à Paris, là j'ai pu exploser dans mes tentations, dans mes désirs en réalité.
Sur les terrasses du château Lacoste, votre domaine, ces magnifiques sculptures ressortent sur ces pierres anciennes. On est vraiment en contraste entre modernité et puis ces pierres. Elles sont installées en plein air, dans un endroit complètement dépouillé. Il y a juste la pelouse, les pierres et le ciel. Et donc, toutes ces œuvres se détachent pleinement, se révèlent.
C'est une essence en réalité, car c'est tellement bien exposé. Et puis, elles sont individuellement exposées, donc elles ne se gênent pas l'une à l'autre, quoi qu'elles vont divinement bien ensemble. Mais malgré tout, on les a séparées. Le lieu est assez magique, comme vous savez, le château du Marquis de Sade, qui a été démoli pendant la Révolution, enfin qui a été petit à petit un petit peu retapé et moi reconstruit, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, donc j'en ai fait ce lieu magique où on peut exposer, soit en concert également, où nous avons produit des concerts, car la pierre résonne, c'est à l'état brut, et toute la reconstruction a été récupérée parmi les pierres qui avaient été démolies. Et là, le concert avec Tinguely et bien d'autres, les sculptures de tous ces deux crues de Tinguely, de Soto, se sentent très bien parce qu'elles sont séparées en réalité. Elles sont dans une atmosphère, mais entre le modernisme de la matière, de la couleur, de la forme et de la musicalité, et de la projection plus, si vous voulez, ils sont indépendants dans chaque pièce d'une, la pierre du passé, qui est brute, qui est naturelle. Il y a un rapport de civilisation, en réalité, par les matières.
Votre œil a découvert ces œuvres quand vous êtes arrivé, quand elles ont été installées, je veux dire.
Alors,
je
n'ai pas eu la surprise totale, mais tout de même, quand je suis rentré dans Soto, je dois dire, dans ce labyrinthe où l'on passe dans la vie, on traverse un immense désert bleu, ce qui est merveilleux, on se pénètre là-dedans comme si c'était des nuages, on ne sait pas où on traverse ces centaines de milliers de fils bleus qui tombent du ciel. C'est une forêt en somme, c'est merveilleux pour les enfants comme pour les grands.
Le pénétrable de Soto, qui est bleu, d'un bleu magique.
Bleu Soto. Qui voilà. Est un bleu Soto, c'est pas le bleu Klein, c'est bleu Soto.
Qui effectivement, dans les éléments du vent aussi, bouge et est animé également absolument. Par les. Dès qu'on pénètre à l'intérieur, comme si on rentrait dans l'eau.
Oui, parce que c'est mouvant, c'est d'ailleurs le cinétisme, c'est le but du cinétisme, c'est-à-dire donner du mouvement. Et pour rentrer là-dedans, vous heurtez à une forêt inconnue, on a l'impression qu'on est dans un bois et on ne sait pas où on va. Et c'est assez émerveillant parce que tout de même, on a un sentiment de solitude et en même temps de découvrir quelque chose.
Vous êtes en accord aussi avec les sculptures de Carlos Cruz Diez qui utilisent la couleur de façon très saturée et puis ces grandes lamelles.
Des couleurs violentes d'ailleurs, des couleurs brutes, naturelles, très fortes. Là, ce sont des isoloirs en somme. On est prisonnier dans un... C'est pas très loin de Soto non plus parce que finalement, on est pris aussi par un piège. Là, on rentre dans une douche. Ça aurait pu être une pluie d'eau de couleur, par exemple. Il aurait pu y avoir de la pluie de couleur qui tomberait sur cette douche qui est enfermée de panneaux qui tombent et qui bougent également, qui font du bruit. Car tout ça est toujours le cinétisme, apporte le bruit, le son, la musique.
Et pour terminer, la sculpture d'Ikili qui est...
Elle est musicale également. Ikili est très, très amusant. On l'entend parce que c'est un mobile en réalité. Ce n'est pas un caldaire, c'est loin du caldaire. Mais on peut y penser également. C'est d'ailleurs le même mouvement. Et ça bouge par le vent, c'est-à-dire que ce sont des cloches qui sont... Moi, je le considère comme une cloche qui serait désarticulée, qui serait cassée et qui serait rapprochée, que tous les morceaux de la cloche seraient rajoutés par une certaine facilité technique. Et on entend tous ces bruits de cloches les unes à côté des autres qui font du bruit. Et c'est très reposant en même temps.
Un art apaisant, en fait.
Un art apaisant. D'ailleurs, tout le cinétisme.
Est-ce que vous collectionnez les œuvres de l'art cinétique ?
Non, moi j'en ai pas. J'avais acheté une tour de 2 mètres de haut à l'espace Carnat d'ailleurs, et puis qui a disparu d'ailleurs. C'est ça qui a été très pénible pour moi de le constater. Nicolas Schaeffer, je l'avais exposé il y a une quarantaine d'années, 45 ans à l'espace Carnat, où d'ailleurs beaucoup de peintres ont exposé énormément. On a eu des expositions très impressionnantes en passant du plus classique, donc si vous voulez, tous les grands classiques d'entre-deux-guerres. Puis ensuite, on a fait de l'art cinétique à l'époque. Là.
Cet art cinétique avait tant d'importance sur le monde de la mode, sur vous. Il a eu aussi beaucoup d'importance. Quel héritage voyez-vous ou discernez-vous? Parce que dans l'œuvre contemporaine, dans les arts contemporains en sculpture, on voit vraiment l'héritage de ces pionniers qui ont été Soto.
Absolument. Les matériaux aussi, les matériaux utilisés. Le plastique était très important dans l'art cinétique. Et n'oubliez pas qu'il y a eu une créativité énorme, même à travers tout le plastique. Dans les meubles, dans les éclairages, dans la sculpture, dans la matière. Il n'y a pas eu que le métal, il y a eu superposer les deux, métal et c'est grâce au pétrole, d'ailleurs il faut bien le reconnaître, qui ont donné des couleurs différentes qu'on n'avait pas auparavant, au prisme différent, et en même temps en légèreté, en poids et en transparence. Donc la matière du pétrole a donné une nouvelle conception architecturale, picturale, musicale, incorporée dans tous ces arts-là qui sont le moment d'aujourd'hui. C'était une réunion de 5 grands sculpteurs du cinétisme. on a eu une très grande satisfaction qu'ils ont tous rendu, même ils ont tous été présents, je veux dire qu'ils ont tous dit tout de suite dans ce, c'était inconnu, puisqu'en fin de compte, l'an dernier j'avais fait toutes les sculptures de pierre et de métal, mais c'était des, plutôt pas classiques, mais totalement différentes. Et de demander ensuite aussi les titres qui n'avaient pas été oubliés, comme vous le savez, mais on en avait moins parlé, et de le remettre à l'actualité, je crois que c'est une très bonne chose, parce que c'est du présent, ça, c'est de la réalité, on le voit. Je vous parlais tout à l'heure du Monte Carlo pour le mariage du prince. C'est évident que c'est l'art qui est le plus époustouflant. Et même avec tous ces matières de laser, enfin ces choses qu'on peut créer actuellement, c'est ça la réalité de notre mouvement d'aujourd'hui.
Merci Pierre Cardin. Je rappelle juste que l'exposition se déroule du 2 juillet au 2 octobre, qu'elle est ouverte à tout public. Il suffit de monter au château de Lacoste, magnifique lieu où on a un point de vue sublime sur toute la région.
La vue est exceptionnelle, elle est quand même perchée sur un campanile, si on peut dire, qui domine toute la région, 360 degrés, c'est un enchantement.
Merci Pierre Cardin.
Voilà, merci.
Comme chacun sait, chaque année, Pierre Cardin organise un festival à Lacoste. Cette année, Pierre Cardin présente au Festival de Lacoste pour sa 11e édition, de juillet à août 2011, tous les soirs à 21h, dans les carrières du château du Marquis de Sade, plusieurs spectacles allant de la musique classique au spectacle musical en passant par la danse et le théâtre. Annonce d'un programme éclectique. Carmina Burana, Chico et les Gypsy Kings, Sarah Bernard toujours, Symphonie Fantastique, Cocteau, Guitry chez Maxims, ça c'est un spectacle musical, Année poétique, hommage à Serge Gainsbourg, le ballet avec Marie-Claude Pietragala, La Tentation d'Ève, un spectacle musical Voltaire de la tolérance à la raison, une pièce de théâtre Il faut, je ne veux pas, et un opéra The Fairy Queen. Comme vous le voyez, le programme est particulièrement riche et divers. Dans l'actualité également de l'Académie des Beaux-Arts, dans l'actualité des prix, à noter ce mois de juin, le 6 juin, le prix de chant choral Liliane Bettencourt qui a été attribué à l'ensemble vocal Sequenza 9.3, dirigé par Catherine Simon-Pietri. Le même jour, l'Académie des Beaux-Arts a également décerné les prix artistiques de la Fondation Simone et Cino del Duca au peintre Hérault, au sculpteur Jean-Paul Philippe et au compositeur Philippe Beaumont. Les prix de musique, prix d'encouragement, ont été attribués à Emmanuel Cesson, harpiste, à Romain Leleu, trompettiste, à Maxime Pascal, chef d'orchestre, et à Déborah Waldman, chef d'orchestre. Voilà pour l'actualité des prix de l'Académie des Beaux-Arts en ce mois de juin 2011. Rappelons l'événement qui a marqué l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts en ce mois de juin, l'installation de Michael Levinas. Le 15 juin, l'Académie a reçu sous la coupole de l'Institut de France le compositeur et concertiste Michael Levinas, fils du philosophe Emmanuel Levinas. Depuis ses premiers pas dans la musique, Michael Levinas assume une double vocation. Pour ce compositeur, l'écriture musicale est une mission sacrée et quand il évoque le piano, son instrument de prédilection, il déclare sans hésitation qu'il est un manuel. Ses interprétations de Beethoven, dont il a joué l'intégrale des sonates pour piano, l'ont révélé au grand public. Sa propre musique et ses opéras ont aussi rencontré l'adhésion du public. Son dernier opéra Métamorphose a été créé à l'Opéra de Lille en mars dernier. Continuons sur la musique dite contemporaine. L'académicienne Edith Canaccisi, violoniste de formation et compositrice, a déjà écrit près de 70 œuvres, des pièces vocales et instrumentales où les cordes occupent une place de choix. Elle a sorti en mars dernier un CD intitulé Times, une pièce pour grand orchestre qu'elle a créée pour la BBC Symphony Orchestra en 2009. Cette première femme, compositeur à être reçue à l'Institut de France, a été élue en 2005 comme membre de l'Académie des Beaux-Arts. Elle aime à explorer les dimensions du temps et vous pourrez prochainement l'écouter sur Canal Académie puisqu'elle est venue nous parler à cette occasion de sa musique composée de changements de rythme et de couleurs dans un antagonisme vertical et horizontal très dynamique. Laissons temporairement les partitions pour vous inviter à voir l'exposition de l'artiste graveur Éric Desmazières présentée à la galerie Arsène Bonafou-Murat. Il s'agit d'une exposition de ses livres et de ses suites gravées. Vous pourrez y admirer au cœur de Saint-Germain-des-Prés ses œuvres les plus récentes et d'autres beaucoup plus anciennes de 2004. L'occasion d'avoir une vision complète de l'œuvre gravée de Desmazières. Ainsi, le tremblement de terre du Chili, une œuvre grand format de 1987, ne manquera pas de vous fasciner si vous aimez le dédale des ruines, les passages du temps et la traversée des espaces dans une dimension qui n'appartient qu'à lui. C'est du 17 juin au 13 juillet, 15 rue de l'Échaudet, à Paris. Peinture. Le Salon d'art rue de l'Hôtel des Monnaies à Bruxelles présente depuis le 16 mai mais jusqu'au 16 juillet des dessins et des œuvres de technique mixte du peintre Vladimir Velikovic sur un texte d'Odile Massé. La galerie Anna Shop à Marseille lui consacre aussi depuis la fin du mois de mai et jusqu'au 30 juillet une exposition personnelle. Toujours dans la peinture mais cette fois du côté de la Suisse, Pierre Giannada, membre associé étranger depuis 2011 de l'Académie des Beaux-Arts, présente à Martigny, en Suisse, une double exposition consacrée à Monet, l'une intitulée « Monet au musée Marmottan et dans les collections suisses » et l'autre « Estampes japonaises dans la collection de l'artiste de la Fondation Monet à Giverny ». Au foyer de la Fondation, une exposition d'ailleurs de photographie consacrée à Maurice Béjart, qui fut membre de l'Académie dans la section « Membres libres ». L'ensemble est donc présenté du 17 juin au 20 novembre, à la Fondation Pierre Giannada à Martigny, en Suisse. Photographie. La photographie fait l'événement à Arles pendant tout l'été. Pour leur 42e édition du 4 juillet au 18 septembre 2011, les Rencontres d'Arles accueillent des photographes du monde entier. Un rendez-vous de niveau international, initié et porté par le talent de Lucien Clergue, membre de l'Académie des Beaux-Arts. À Arles, le photographe qui accorde une grande importance aux ouvrages de photographie est à l'origine aussi de la création de deux prix du livre, décerné désormais dans les arènes de la ville, un temps fort d'encouragement aux artistes. À l'honneur cette année à Arles, le Mexique. Le Mexique et ses photographes d'abord. Chris Marker ensuite, en tant que grand invité, dont on connaît davantage les documentaires que l'œuvre photographique. Mais il y a aussi l'histoire, et pas seulement l'histoire de la photographie. Arles vous donne effectivement rendez-vous avec la valise mexicaine de Robert Capa, perdu dans les méandres de la guerre civile espagnole, retrouvé et dont le contenu est pour la première fois exposé en Europe. Au final, une soixantaine d'expositions vous attendent à travers toute la ville pour le plus grand bonheur du public amateur et professionnel de la photographie d'auteur. Lucien Clergue est récemment venu à Canal Academy pour parler de cette édition des Rencontres d'Arles et pour présenter les jeunes photographes mexicains. L'étonnant voyageur qu'est Lucien Clergue expose aussi à Florac, au cœur de la Lozère, sa vision des Cévennes, une terre qu'il a connue dès l'enfance quand la mairie d'Arles envoyait ses enfants en colonie durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. L'exposition s'intitule cette fois « Lucien Clergue dévoile Florac » et c'est du 14 juillet au 27 août. Yann Arthus-Bertrand fait aussi l'actualité avec 40 photographes internationaux. Dans le cadre de l'année internationale des forêts, Yann Arthus-Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts propose une grande exposition itinérante simultanée, surtout intitulée « Des forêts et des hommes ». Les photos sont exposées place du Palais-Royal à Paris, du 25 juin jusqu'au 24 juillet 2011, à Genève, au Pont des Machines, jusqu'au 14 août 2011, et à Decize, dans la Nièvre, à la Promenade des Halles, jusqu'au 9 octobre. Yann Arthus-Bertrand a choisi de présenter 70 images au parti pris esthétique pour vous conduire à voir derrière l'arbre la forêt, véritable patrimoine vivant sur lequel il attire notre attention à travers l'action de sa fondation Good Planet. Il a donc décidé d'attirer votre regard sur de très grands formats photographiques accrochés sur des troncs d'arbres. Une forêt sans feuilles a ainsi pris place et corps, place du Palais Royal, le temps de l'exposition. Sculpture. L'artiste Claude Abeille, membre de l'Académie, a été l'élève du sculpteur Robert Couturier. Claude Abeille, élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1992, expose en Bretagne durant l'été. L'occasion de découvrir ses œuvres. Claude Abeille fait des sculptures de vêtements vides qui ne contiennent pas de corps, vestes, manteaux, pantalons et masques parfois. J'ai préféré, dit-il, dans mes œuvres, privilégier ce que nous voyons le plus souvent des autres, c'est-à-dire le vêtement qui couvre, protège, dissimule, exalte aussi et finalement peut exprimer une part de nous-mêmes. Je suis encouragée par cette pensée du poète portugais Pessoa, le corps est l'ombre des vêtements qui enveloppent ton être profond. Devant les étoffes froissées, les costumes vides, ces manteaux flottants, chacun est appelé à prendre position. L'exposition se déroule du 9 juin au 9 septembre 2011 à la galerie du Crédit Mutuel Arkéa à Le Relec Kerouan en Bretagne, près de Brest. Dans l'actualité des arts, signalons l'exposition au Louvre intitulée Rembrandt et la figure du Christ qui s'achève bientôt. Vous avez encore jusqu'au 18 juillet. Et si vous voulez en savoir plus sur ce beau sujet, téléchargez sur Canal Academy l'émission d'Anne Jouffroy. L'exposition, qui se développe autour de ces têtes du Christ, rassemble 85 œuvres, peintures, estampes et dessins, à l'iconographie resserrée sur l'idée que se faisait Rembrandt de l'apparition miraculeuse du Christ. Signalons également l'exposition consacrée au peintre espagnol Juan Gris, intitulée « Juan Gris, rime de la forme et de la couleur », cet ami de Braque et Picasso a su trouver sa voie au sein du cubisme entre ces deux géants. C'est au musée Paul Valéry à découvrir à 7 jusqu'au 31 octobre 2011. Sur le Pont des Arts, vous donne rendez-vous en septembre.